Bonjour à toi et bienvenue sur En Amour, ton émission de podcast dans laquelle nous explorons les méandres des relations amoureuses, pour y ajouter une pointe de conscience, de bienveillance et bien sûr d'amour. Moi c'est Nicolas, je suis ton hôte, je suis aussi l'auteur du blog graindecoeur.fr et aujourd'hui c'est l'épisode 206. Et en réflexion avec l'épisode précédent sur la sexualité et peut-être les épisodes que j'ai fait d'avant, je me suis dit tiens. Et s'il manquait, en fait, c'est le titre de l'épisode, hein, s'il manquait quelque chose pour débloquer la sexualité de ton couple, en fait. Et je te parlais la semaine dernière de cette notion que le désir, il peut être en réaction. Donc ça, c'est souvent plus vu chez les femmes, mais pas que. Ça peut être quelque chose qui est chez un homme aussi, où ce désir n'est pas spontané, à son opposé. Des gens qui ont un désir spontané, c'est des gens, voilà, ils ont envie de faire l'amour tout de suite maintenant, ils ont envie de l'autre tout de suite maintenant. C'est quelque chose qui se manifeste régulièrement, il n'y a pas de... Voilà, et les gens qui ont un désir en réaction, des fois c'est plus des gens qui se posent des questions sur leur libido, sur ce que j'ai vraiment envie de faire l'amour et comment ça se passe. Et si, puis des gens qui vont constater que quand ils sont dans un certain degré d'intimité avec l'autre, avec leur partenaire, avec quelqu'un, etc., leur désir à eux se réveille. C'est pour ça qu'il est appelé en réaction. C'est-à-dire qu'il va ce désir va se révéler, se réveiller. Une fois qu'on a fait les quelques premiers pas, c'est pas nécessairement des préliminaires, hein, ça peut être vraiment un moment de connexion, un moment de danse, un moment de se regarder dans les yeux, un moment de parole, peut-être la proximité des corps nus, etc. Et voilà, et observer ce truc du ah ouais, mon désir en fait à moi, ouais, mon élan vital pour la sexualité, il est en réaction, il n'est pas spontané. Donc on a parlé ça de la semaine dernière. Et pour moi, ça explique beaucoup de dynamiques homme-femme, beaucoup de dynamiques de couple aussi plus largement. Où il y a des problèmes dans la sexualité. Il y a aussi, je t'avais un peu parlé rapidement, que c'était la semaine dernière, que c'était, si tu ajoutais à cette clé du désir spontané ou du désir en réaction, la carte des schémas érotiques, donc tu as cinq schémas érotiques, tu as l'énergétique, tu as le sensuel, tu as le schéma de base, j'ai oublié son nom, d'ailleurs, c'est pourtant ce schéma de base, un schéma qui est plus cash, on va dire, vis-à-vis de la sexualité. Tu as le kinky et tu as le polyvalent, donc celui qui est un peu à l'aise avec tous. Donc, tu en as qui sont plus, ils vont plus jouer sur les sens, il y en a qui vont plus jouer sur l'anticipation, sur la création d'une certaine tension sexuelle. Le schéma sexuel, bien sûr, c'est un peu le stéréotype du mec qui est prêt à faire l'amour n'importe quand, n'importe comment. Et il suffit juste de lui dire on fait l'amour et le sexuel, il est prêt, il a envie, il a de l'énergie, etc. Donc, j'ai un épisode, hein, qui est dédié à ça. À ces schémas érotiques, donc tu tapes schéma érotique, podcast en amour, tu vas le retomber. Il y a plein de gens qui en parlent, tu vas trouver du contenu dessus. Si jamais ça te parle pas trop, tu vas pouvoir les explorer davantage. Mais en gros, les schémas érotiques, c'est vraiment cette idée de je parle une langue ou deux langues. Je suis bilingue en français et en anglais dans mon cas, je parle deux langues. Bon, voilà, si je vais en Espagne, je peux pas parler espagnol. Si je pars au Japon, je peux pas parler japonais. Et il y a les cinq schémas érotiques, c'est comme si c'était quatre langues différentes avec. Le cinquième qui est, je parle un peu toutes les langues en fait. Alors peut-être pas toutes les langues à fond parce que, voilà, je suis un peu polyvalent, je suis un peu caméléon, je passe un peu partout, il y a tout qui m'intéresse dans la sexualité, et voilà, et je suis capable d'aller dans le kinky, je suis allé capable d'aller dans le sensuel, je suis allé d'aller dans le sensoriel, je suis capable d'aller dans l'énergétique, je suis allé, voilà, ou dans le sexuel vraiment. Et un peu cette fluidité, cette flexibilité, quoi. Mais il y a quatre langages, quoi. Et si toi, je sais pas, t'es sexuel, t'es le schéma un peu... Prêt n'importe quand, on fait l'amour, on baise, tac au tac, ça va. Et si tu avais quelqu'un qui est sensuel, qui a besoin peut-être plus, ou sensoriel, on va chercher, il y a besoin que les sens soient stimulés, qu'on prenne le temps, qu'il y ait des préliminaires, qu'on passe du temps avant d'aller vers peut-être un acte pénétratif ou quelque chose comme ça, il y a souvent des choses qui vont pas, quoi. Vous parlez simplement pas la même langue. Il faut comprendre que si votre sexualité, elle est pas fluide, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compatibilité. Ça veut dire que vous avez peut-être pas les mêmes schémas érotiques, donc c'est bien déjà de les comprendre. En plus, il y en a un qui peut avoir un désir spontané et l'autre qui peut avoir un désir qui est en réaction. Donc déjà, avec ces deux cartes de lecture, on comprend vachement pourquoi ça peut accrocher la sexualité. Parce que si toi, tu es quelqu'un qui a un schéma sexuel et en plus, tu as un désir qui est spontané, tu vas aller voir ton partenaire, tu te dis viens, viens, on fait l'amour, viens. Ou donc, tu vois, tu vas avoir des élans qui sont très spontanés, qui sont très, peut-être même très, qui sont forts aussi, des pulsions de vie qui sont fortes pour aller vers la sexualité. Et en fait, si tu es avec quelqu'un, que ce soit homme ou femme, qui lui est sur un schéma sensoriel ou énergétique, qui est sur un désir qui est en réaction, et eh ben ça va pas marcher en fait. Tu vas pas pouvoir simplement dire à la personne, viens on fait l'amour, viens on baise, viens on prend un moment ensemble, on fait un câlin, et l'autre il va il il va avoir besoin de temps, il va avoir besoin que tu lui proposes peut-être, bah, viens, on prend un temps, on se pose, on se connecte, etc. Et ça, ça va prendre, ça demande un peu d'apprentissage en couple, quoi. Ça demande un peu d'apprendre à naviguer ces choses-là et de se rendre compte, bah, de oui, en effet, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a un désir en réaction, il n'a pas de désir. C'est souvent ça qui questionne par ces personnes-là, c'est j'ai pas de désir, est-ce que je veux encore mon partenaire, ma partenaire, est-ce que je suis encore, est-ce que la sexualité c'est encore important pour moi. Et souvent, ces gens-là, quand ils vont vers la sexualité, ils se rendent compte de « ouais, j'ai du désir, ouais, carrément, ouais ». Et pas qu'un peu, j'en ai beaucoup, c'est juste que il n'est pas accessible immédiatement, tout de suite, là, maintenant, sans passer par quelques étapes avant, sans, voilà. Et donc, peut-être la troisième clé que je voulais t'amener, qui est assez simple, hein, c'est cette idée de passif et actif. Alors, des fois, on rigole au lit avec les amis, quand, je sais pas, moi, on faisait plus ça quand on était jeune, oh, t'es passif, t'es actif, on se posait ce genre de questions. Mais il y a vraiment cette idée de aimer donner et aimer recevoir. Et peut-être que celui qui a un désir spontané, peut-être que celui qui a un schéma érotique sexuel, peut-être qu'il est plus actif par défaut. Mais cette personne-là peut tout à fait être passive dans certains moments aussi et vouloir recevoir. Et un peu pourquoi je voulais te l'amener cette idée, parce que là aussi, si tu es deux actifs, ça peut se passer très bien, parce que tous les deux... voilà, envie de faire l'amour, enfin ça peut se passer très bien, peut-être ça va être un peu la surenchère de qui fait quoi le plus, mais souvent on va peut-être, si je devais faire une généralité, ben, y a peut-être un désir qui est spontané, qui est peut-être un peu plus présent, un peu plus là, c'est pas toujours noir et blanc, hein. Les gens qui ont un désir majoritairement en réaction par exemple, ben, des fois ils ont des désirs spontanés, quoi. Il y a des fois ils ont envie de faire l'amour, des fois ils se connectent à leur désir parce qu'il y a eu telle pensée, parce qu'il y a eu telle condition, parce que c'est un truc à eux qui les excite, donc c'est jamais... Faut pas t'identifier trop fort à ces choses-là, quoi. Faut pas dire, ah bah non, moi je suis en réaction, alors je fais que du en réaction, et ça va être à l'autre de m'amener. Non, si tu as du désir spontané de temps en temps, c'est très bien. Il y a des gens qui sont 50-50, qui ont les deux, et ça change tout le temps. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de l'un, 90-95% du temps, et parfois de l'autre. Et c'est à toi d'observer un peu comment tu es, quoi, dans la sexualité, avec ton ou ta partenaire. Peut-être que selon le partenaire avec qui t'es, bah, tu verras que t'es plus en réaction où t'es plus spontané, parce que peut-être que si l'autre était dans une relation avec quelqu'un qui était très spontané, ben ça va te donner la place d'être en réaction un peu, parce que c'est l'autre qui va prendre les initiatives tout le temps, et à l'inverse, si toi tu te rends compte avec quelqu'un, tu te retrouves avec quelqu'un qui est encore plus en réaction de toi, tu vas te retrouver peut-être à être le spontané. Moi, j'observe, hein, dans la sexualité et ailleurs, que selon la personne avec qui je suis, ben c'est pas du tout pas... Des fois, c'est pas du tout pareil, le rôle que je prends, la place que je prends dans cet échange, dans cette relation-là, c'est pas du tout la même chose, parce que ben, y a déjà une place qui est prise, on va dire, il y a déjà quelque chose qui est occupé, et du coup, ben, naturellement, en fait, on a tendance à s'adapter, à transformer un peu peut-être notre réaction naturelle. Et donc, avec cette... Moi, vraiment, ma réflexion de cette semaine, hein, c'était en me demandant, ben, ok, dans quelle situation... Je t'ai donné deux clés, donc les schémas érotiques et ce désir spontané et passif. Et dans quelle situation ça peut encore coincer la sexualité d'un couple avec un outil simple. Je te parle pas de faire 2 ans de thérapie ou de sexothérapie ou de travail corporel pour aller débloquer un trauma. Bien sûr, ça peut être ça qui est nécessaire. Souvent, hein, quand je te partage des outils, des cartes de lecture, ça reste des choses qui viennent entre guillemets à la surface. C'est pas nécessairement, je vais pas te proposer nécessairement un travail de fond avec un podcast d'une demi-heure. Ce travail de fond, il sera peut-être à aller faire, mais c'est un endroit où tu vas aller le faire tout seul, c'est un endroit où tu vas le faire accompagné, c'est un endroit où tu vas le faire en couple, c'est un endroit où tu vas le faire avec, avec un psy ou quelqu'un qui travaille avec le corps, peu importe, mais du développement personnel, du tantra, peu importe, mais tu vas aller faire ça ailleurs, quoi, entre guillemets, ou avec les accompagnements que je propose, où on peut aller un peu plus en profondeur, mais c'est pas... Voilà, c'est compliqué sur ce podcast de te proposer, sur un format qui n'est pas très long non plus, qui n'est pas très court, mais qui n'est pas très long, de te proposer des outils pour faire un travail de fond, en plus sans être accompagné, quoi, de toi à toi. C'est des choses qui sont pas toujours évidentes. Mais avec ces trois cartes de lecture-là, si tu les mets ensemble, ok. Le désir, il est en réaction, il est spontané. Les schémas érotiques, c'est comme si on parlait des langues différentes. Il y en a 4 langues, il y a un mec ou une nana qui parle un peu toutes les langues. Ça me permet déjà de comprendre ça. Donc si je me rends compte qu'il y a des tests, hein, tu tapes « test schéma érotique » en ligne, tu vas en trouver. Tu vas pouvoir faire ton test. Pour ce qui est du désir en réponse ou du désir spontané, c'est plus à toi, je connais pas de test pour ça, peut-être il en existe, mais c'est plus à toi de faire une observation et de regarder de « ok, non, j'ai envie de faire l'amour régulièrement, c'est moi qui suis un peu demandeur, c'est moi qui, on va dire, qui ai le plus de libido, des fois c'est comme ça que les couples en parlent, ah, il y en a un qui a plus de libido que l'autre ». Je sais pas, il y en a un qui a un désir spontané, et donc ça peut paraître comme du plus de libido, mais peut-être celui ou celle qui a le désir en réaction, peut-être qu'il y a une libido qui est très forte avec quelques conditions, avec quelques étapes, avec une manière de s'y prendre, entre guillemets. C'est à chaque couple, à chaque individu de trouver, ok. Parce que souvent, moi, les personnes que j'ai accompagnées, de ce que j'ai vu autour de moi aussi, c'est que les personnes qui sont en désir en réponse, c'est pas toujours évident de le vivre, quoi. C'est pas toujours évident. C'est des personnes qui ont peur de pas avoir de libido, qui ont peur d'être pas trop intéressées par la sexualité, et pourtant, à chaque fois qu'ils ou elles font l'amour, il y a le feu, quoi. Et c'est là, quoi. Ils ont envie, il y a pas de problème, il y a du désir, c'est des moments coquins, c'est des moments chauds, c'est des moments sensuels, c'est des moments magiques, il y a plein de plaisir, il y a plein de trucs, donc... Tout est là, quoi, entre guillemets. Il manque rien. Il y a pas quelque chose de cassé. Il y a pas quelque chose de perdu. C'est juste une manière d'être, entre guillemets, quoi. Alors bien sûr, on peut toujours travailler sur soi pour se connecter plus à son désir. On peut toujours il y a des choses à faire, parce que des fois, ce désir en réponse, il est là parce qu'il y a des croyances limitantes sur « j'en vaut pas la peine » ou « il y a un rôle ». Enfin, voilà, des fois, c'est des choses qui sont naturelles et on est né comme ça et c'est OK, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Des fois, c'est aussi un peu du conditionnement social et il faudra voir pour toi qu'est-ce qui est de l'ordre du conditionnement social et qui va peut-être limiter ton désir spontané, parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir du désir spontané, même à très faible dose, même parfois, il y a des gens qui suppriment complètement ce désir spontané parce que ils veulent pas être pour une fille, elle veut pas être cette fille qui voilà, ou le mec il a peur justement d'être un chien de talus, ou des fois on a ces conditionnements là et on va supprimer une partie de ce qui fait nous un être sexuel et voilà, et peut-être qu'on aurait plus de désir un peu spontané, peut-être qu'on serait quand même quelqu'un avec un désir en réponse. Et puis à l'inverse, il y a des gens qui, parce qu'ils ont le rôle de l'homme, par exemple, ou le rôle du dominant sexuel dans la relation, ou qu'ils ont le rôle, ils ont le rôle de celui qui a le plus de libido, pensent que ils sont que dans le désir spontané et que le désir en réaction, c'est pas trop leur truc, et ils vont créer des situations où c'est eux qui amènent ce désir spontané. Ils vont pas se laisser peut-être convaincre ou amener vers un désir en réaction, quoi, ou très très rarement. Et dans les deux cas, il y a du conditionnement qui peut un peu limiter, se mettre en travers. Pour parler un peu plus du sujet du jour, donc je voulais vraiment faire le lien entre ces trois choses, quoi. Parce que pour moi, c'est ces trois cartes de lecture qui peuvent être vraiment, si tu regardes ta sexualité et qu'elle n'est pas comme tu voudrais qu'elle soit, tu peux les regarder de ces trois angles-là. Donc tu fais le test chez MyÉrotique, ton partenaire il fait le test chez MyÉrotique en ligne, vous regardez, vous comparez un peu, vous dites « ah bah ouais, moi je me retrouve bien là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire, etc. » J'ai des contenus écrits et audio là-dessus, sur le blog et sur le podcast, donc tu peux regarder un peu plus si tu as envie de ce que je propose dessus. Il y a des gens qui sont vraiment, qui parlent vraiment quasiment que de ça aussi, donc qui ont peut-être un peu plus loin que moi sur ces schémas érotiques. Comme moi, je te parle de beaucoup de choses, peut-être un peu moins spécialisé là-dedans, on va dire. c'est pas nécessairement là où je suis spécialisé. Il y a cette histoire donc de désir en réponse et ce désir spontané, et il y a donc cet actif et passif. Donc faisons un peu le point sur l'un et l'autre. Qu'est-ce que ça voudrait dire être passif? Donc c'est quelqu'un qui va être réceptif aux gestes, aux simulations de l'autre. Donc on est un peu dans cette idée du en réaction, quelqu'un qui va aimer se laisser guider, peut-être aller vers le lâcher prise, hein. C'est des gens qui aiment bien des fois, quand on a trop de responsabilités dans la vie, etc., la sexualité ça peut être un endroit où on lâche prise vraiment, où on se laisse aller, on fait confiance à l'homme, à la femme qui est là avec nous, qui s'occupe de nous, entre guillemets, peut-être qui prend les devants, qui dit on va faire ça là, on va le faire comme ça, tourne-toi, mets-toi comme ça, et puis voilà, et vraiment il y a cette idée de lâcher prise et ça peut faire beaucoup de bien. Et c'est dans les couples, hein, où il y a souvent l'un qui porte énormément au niveau charge mentale, au niveau peut-être gestion des enfants, etc., il y a parfois, je ne vais pas faire une trop grosse généralité, mais c'est quand même quelque chose que j'ai vu beaucoup chez des gens qui font de la sexologie, des gens qui accompagnent dans mon expérience personnelle, etc. Il y a parfois vraiment cette envie, ce bien-être dans le « ah ouais, je vais me laisser faire », entre guillemets. Je vais me laisser faire. Ce n'est pas des gens qui sont toujours passifs, mais des fois, quand la vie les pousse à vraiment avoir une charge mentale trop lourde et avoir trop de responsabilités, etc., homme ou femme, hein, et il peut y avoir ce côté de « ah ouais, là, on va prendre soin de moi, quoi. Je vais ressentir du plaisir, je vais ressentir du désir, je vais être le centre de l'attirance, de l'attention de l'autre, vraiment, et ça peut vraiment faire du bien dans cette idée du lâcher prise. Donc on est un peu moins dans l'action, un peu plus dans l'association, quoi, donc il y a vraiment tout ça. Et ça peut, la soumission, elle c'est pas nécessairement être passif, c'est deux choses qui peuvent être différentes. Hein. Quelqu'un de passif, c'est pas nécessairement quelqu'un de soumis, on n'est pas nécessairement dans un jeu de pouvoir de BDSM, ça peut être, les deux peuvent être là, et ça peut être quelque chose comme ça, mais c'est pas nécessairement, ça veut pas dire être soumis, être passif. Bien sûr, tu peux mettre tes limites, tu peux, voilà, on n'est pas nécessairement dans, il y en a qui prend vraiment le contrôle et qui va te dire, tu te mets comme ça, et puis, qui va te faire des trucs un peu contre ton gré, mais avec le consentement. Dans le BDSM, il y a un jeu de pouvoir, il y a un jeu de contrôle, il y a faire des choses à l'autre, mais c'est toujours parce que l'autre le permet. On est toujours dans une situation avec un consentement éclairé, avec un consentement discuté, avec des gens qui ont cette maturité-là et cette compréhension-là du consentement de l'autre. On n'est pas, je ne te parle pas de gens qui se font du mal, parce que voilà, même si je te parle de choses qui sont... Enfin, des fois, on peut donner dans ces situations-là des choses à l'autre qui surprennent, qui sont un peu douloureuses, etc. Et encore une fois, c'est fait avec tout l'amour du monde et dans un cadre consenti, tout simplement. C'est des gens qui vont chercher ça et qui aiment ça et qui jouent avec ça. Donc, on n'est pas nécessairement dans la soumission, ça peut, mais c'est pas être passif, c'est pas synonyme de soumission nécessairement. Bien sûr, souvent, si on va vers la soumission, ça implique une certaine passivité, si c'est pas une passivité complète, en fait. Et l'actif, donc, ça va être quoi à l'opposé? Ça va être quelqu'un qui va prendre des initiatives, qui va peut-être guider le rythme, guider les actions, qui va stimuler l'autre, qui va proposer ou qui va mener le jeu. Donc, il y a vraiment un peu cette idée de leader, quoi. L'actif, c'est pas juste nécessairement, il y en a un qui est allongé, on le fait à l'amour en missionnaire et c'est celui qui est dessus qui est actif. Non, ça va être dans les préliminaires, ça va être dans les propositions, ça va être dans le... Peut-être même l'actif, ça va être celui qui va dire au passif, bah, sois actif un peu, quoi. Peut-être c'est moi qui vais m'allonger pendant quelques temps, c'est toi qui vas venir sur moi, et on va faire l'amour comme ça à un moment. Et ça va changer un peu les rôles, mais c'est toujours l'actif qui va guider un peu le déroulé du faire l'amour, quoi. J'écoutais l'autre jour un mec qui fait pas mal de... qui est coach en sexologie, un mec qui fait du contenu en anglais. Et il disait vraiment, lui, quand il conseille, quand il accompagne les gens dans la sexualité, et que les gens se connaissent peu sexuellement, son conseil, ça va être en général d'avoir un actif, un passif. Et pas toujours les mêmes, mais c'est-à-dire que c'est parfois difficile quand les corps ne se connaissent pas, quand on ne se connaît pas sexuellement, d'avoir des choses où on est tous les deux actifs en même temps, quoi, dans le faire l'amour. Donc c'est à voir... Voilà, dans ce cas-là, il prenait la position de la levrette, où c'était soit la femme qui faisait des allers-retours sur le sexe de l'homme, soit l'homme, justement, qui prenait la femme. Mais que, voilà, que les deux, quand on ne se connaît pas, ce n'est pas toujours évident. Et donc, lui, son approche autour de ça, c'était, voilà, quand tu ne connais pas quelqu'un sexuellement, c'est commence par un passif, un actif, toujours un actif. Après, si tu vas vers le tantra, si tu vas vers le slow sex, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'avoir un actif, peut-être que deux passifs, ça marche. C'est aussi un univers où c'est possible. Il y a un univers où deux actifs, ça marche, parce que les corps se connaissent, parce que les énergies sont là, parce que voilà, on a une certaine connexion, on va dire. Il y a un univers où c'est souvent un actif, un passif, et ça peut être le faire l'amour de base, on va dire, de pas mal de couples. Hein. Ça va être soit du deux actifs, soit du un actif, un passif. Et il y a un autre chemin, si tu vas vers le sexe de la vallée, si tu vas vers le slow sex, si tu vas vers du sexe tantrique, ou peut-être qu'en fait, il y aura deux passifs, ou il y aura un dixième actif. Voilà, des choses beaucoup plus subtiles, des choses beaucoup plus lentes, des choses peut-être statiques et qui vont être aussi des moments d'extase assez, assez profonds. Et donc, tu as un peu tout ce panel-là quoi, dans la sexualité. Et souvent, on pense qu'une bonne sexualité, c'est une sexualité active. Il y a des gens qui vont dire, qui peuvent t'apprendre, qui peuvent t'accompagner vers une sexualité actuellement plus passive et peut-être encore plus riche en émotions, plus riche en plaisir, plus riche en désir, plus riche en orgasme, en jouissance, en tout ce que tu veux. Alors qu'il y a moins. Le plus, c'est pas toujours plus. Le plus, c'est parfois moins, parce qu'on se surstimule, on n'a pas le temps de savourer les petites choses, quoi. Et des fois, c'est en savourant les petites choses qu'on a le plus de plaisir dans la vie, et c'est bien au-delà de la sexualité. Hein. Donc, l'actif, ça peut être aussi un rôle, et parfois, ça, on peut aller donc, vers la soumission du passif et la prise de pouvoir de l'actif. Donc là, on va rentrer dans des jeux de pouvoir. C'est éventuellement une possibilité, encore une fois, c'est pas synonyme. C'est pas parce que tu es actif que tu dois prendre le pouvoir sur l'autre avec son consentement, donc de manière consensuelle. Ça veut pas dire ça. Ça peut aller vers là, ça peut être un jeu que des couples aiment bien faire, que des personnes aiment bien faire. Il n'y a absolument pas de souci avec ça, mais il faut séparer les deux. Pardon. Et des fois, les gens qui ont ce rôle un peu d'actif, ils savent pas trop où est la limite de est-ce que ça veut dire que je dois lui tenir les poignets en même temps que je lui fais ça, et puis est-ce que je dois l'étrangler, ou genre de pratique un peu qu'on voit un peu dans les films ou qu'on voit. Non, pas nécessairement, on peut être actif, on peut prendre les devants, on peut dire bah, tiens, assis-toi comme ça, mets-toi comme ça, mets-toi à quatre pattes, je vais jouer avec une plume, ou voilà, on peut être dans l'actif et dans la douceur aussi. L'actif, c'est pas nécessairement l'intensité, c'est pas parce qu'il y a actif que c'est intensité, ça peut être... on peut aller vers la douceur et une activité et un rôle d'être actif qui est beaucoup plus doux. On peut être très sensuel et actif, par exemple, c'est tout à fait possible. Donc, c'est comment relier un peu tout ça encore une fois. Et peut-être j'ai pas été clair en fait, parce que je me suis un peu perdu dans mon introduction, de pourquoi je voulais amener en plus de tout ce que je t'ai amené avant, les deux autres choses, donc les cinq langages érotiques, les cinq schémas érotiques, pardon, plus cette idée de désir spontané, de désir en réaction. Pourquoi je voulais amener l'actif et le passif? Parce que encore une fois, donc deux actifs, ça peut très bien marcher. Un actif, un passif, ça peut souvent marcher. Peut-être que le passif est un désir réactionnel et que du coup, il va falloir trouver un chemin. Mais il y a des. Moi, je me suis rendu compte que parfois, on est dans une situation où il y a deux passifs. Et si la sexualité, il y a un besoin, on va dire, dans ton couple, parce que bah, y en a eu moins pendant un certain temps. Peut-être que, je sais pas, soit un enfant, soit des choses de la vie, qu'on fait des projets, des choses de la prise de distance, des situations de vie, qu'on fait que la sexualité était moins importante ou elle a moins été vécue. Et du coup, il y a un peu un manque des deux côtés. Il y a un peu quelqu'un qui. Y a un peu des tensions autour de la sexualité, etc. Ben, tu peux te retrouver dans une situation où il n'y a plus grand monde qui a envie d'être actif parce que tous les deux, il y a sorte de manque à combler, quoi, dans la sexualité, dans le toucher du corps, dans le plaisir, etc. Et du coup, ben, tu vas te retrouver avec deux personnes qui ont envie de recevoir. Et c'est un peu le problème de ces couples-là, quand t'en arrives là, c'est peut-être déjà t'as pas le même schéma érotique, donc déjà tu te comprends pas bien, et t'as pas cette notion de schéma érotique, donc tu sais pas qu'en fait, c'est pas que vous êtes pas compatibles, c'est que juste que l'autre il parle une autre langue, et toi tu dois apprendre à parler un peu l'autre langue, et l'autre il doit un peu apprendre à parler ta langue, et peut-être qu'une fois quand vous faites l'amour, vous parlez une langue, et puis la fois d'après vous parlez l'autre langue, et puis vous alternez, vous jouez un peu avec ça, et tu vas te rendre compte que ça peut être très fun, ça peut amener beaucoup d'exploration, beaucoup d'excitation, beaucoup de nouveautés dans la sexualité, surtout quand ça fait un moment que tu es en couple, ça fait un moment que peut-être que tu t'ennuies un peu dans la sexualité, etc. Ça peut être très bien de découvrir le schéma érotique de l'autre ou les schémas érotiques de l'autre et de lui faire découvrir les nôtres. Ça peut vraiment amener beaucoup de bien. Après, tu comprends cette histoire de désir spontané, etc. Désolé, je vais devoir juste couper le téléphone pour pas que ça nous embête avant que pour finir cette émission. J'avais oublié de faire ça avant. Mais voilà, le problème que moi je voyais en réfléchissant à tout ça, c'était, et tu fais quoi quand il y a deux passifs en fait? Quand, où il y en a deux, il y avait un actif, un passif, mais à force, il n'y a pas eu assez de quantité, il n'y a pas eu assez de fréquence, il n'y a pas eu assez de qualité dans la sexualité. Et du coup, même le passif, même l'actif, il a besoin qu'on prenne soin de lui, il a besoin qu'on prenne soin d'elle. Le passif, il a besoin de recevoir lui aussi. Et du coup, il se retrouve un peu dans ce rôle de, elle se retrouve un peu dans ce rôle de passif aussi. Et du coup, le passif, bah, il va peut-être pas rester, enfin, il va peut-être pas nécessairement passer à l'actif pour autant. Donc il y a un manque. Bah, dans ce cas-là, l'une des solutions ces solutions à tout ça, et moi, c'est, enfin, que ce soit les psychologues, que ce soit les mentors que j'ai croisés, que ce soit les personnes qu'on est allé voir en tantra avec ma compagne quand on s'est formé en tantra, etc. L'une des premières solutions que j'ai entendu donner tout le monde, des sex coachs, des sexologues, aux psychologues, aux tantrikas, c'est souvent vraiment de prendre des rendez-vous, de prendre des espaces de temps, de créer 1 heure, 2 heures, de se dire ben, c'est important la sexualité, c'est important pour notre couple. Il y a des couples dans les. Encore une fois, je veux pas que ce soit une injonction du il faut vivre une vie sexuelle. S'il y a un couple qui m'écoute et pour eux, c'est pas important pour les deux, il y a absolument pas, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je réponds notamment plutôt à la problématique du on vit mal notre sexualité, et ça, c'est ce que vivent la majorité des couples. Enfin, du moins qui cherchent à régler des problèmes sexuels de l'ordre de la sexualité. Il y a des couples qui la vivent très bien la sexualité, mais si tu écoutes des podcasts sur comment régler des problèmes autour de la sexualité, c'est soit tu en as toi avec la sexualité, tu as des choses un peu à guérir, à nettoyer, à transcender autour de tes croyances, autour de t'assumer, autour de tes fantasmes. Il y a des choses qui te gênent, il y a des choses qui te font peur, voilà, il y a des choses qui grattent, quoi. Soit c'est dans ton couple et tu viens chercher des solutions. Et moi, là, dans ces podcasts-là, bien sûr, je m'adresse aux gens qui viennent chercher des solutions plus qu'à ceux pour qui tout va bien. Et éventuellement, si tout va bien, malheureusement, il n'y a qu'une chose qui est garantie dans la vie, c'est le changement. Donc, c'est pas sûr que même une sexualité qui va bien aujourd'hui, dans 5 ans, elle aille toujours bien dans un couple. C'est pas, ça se perd des fois, ces choses-là. Donc, ça peut te permettre d'avoir des outils pour, si jamais un jour ça va plus, ok, on va faire le point sur les schémas érotiques, on va faire le point sur le désir. Est-ce qu'il est en réaction? Est-ce qu'il est spontané? Est-ce que c'est des choses qui peuvent changer avec le temps, hein? Du désir spontané de l'homme, il peut se perdre un peu avec l'âge, avec la testostérone qui baisse, etc. Et est-ce qu'on est plus dans un esprit passif ou actif? Et ça, c'est quelque chose que tu peux demander à ton partenaire. quand tu vas vers le faire l'amour, quand tu vas prendre du temps ensemble, quand vous avez pris ces 2 heures, vous les avez mis sur l'agenda, les enfants sont chez papa, maman, ou sont, enfin, chez les grands-parents, du coup, pour eux, ils sont ailleurs, etc. Vous avez ces 1 ou 2 heures, ok, toi, t'es plutôt comment ce soir? Et avec quel langage érotique t'as envie qu'on joue ce soir? Est-ce qu'on va jouer avec le mien? Est-ce qu'on a du désir et on veut du sexuel? Est-ce qu'il y a plutôt du sensuel? Est-ce qu'on va sortir les sextoys et les fouets, et les martinets, les je sais pas quoi, et on va aller vers du kinky ou... Voilà, qu'est-ce qui est là, quoi, ce soir-là, ce jour-là, il nous le besoin? Est-ce que tu as plus envie d'être passif ou d'être actif? Et déjà, si tu poses ces questions-là et si tu en parles un peu, bah, ça peut t'aider à y aller, quoi, ou à aller quelque part d'autre, parce que tu en as peut-être marre d'aller toujours au même endroit. C'est aussi hein, mettre de la conscience sur sa sexualité, parler de ces choses-là, c'est aussi permettre d'aller ailleurs, quoi, parce qu'automatiquement, on va toujours... Presque toujours, on va souvent au même endroit, on fait l'amour dans les mêmes séquences, on fait les mêmes préliminaires, on fait la même chose pendant l'acte, on fait la même chose après l'acte. Et du coup, il y a des gens, en fait, ils ne se rendent pas compte, mais des fois, ils sont juste, ils se font chier, entre guillemets, dans la sexualité, parce que c'est toujours pareil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir, ça a juste besoin peut-être que ça change un peu, que ça évolue un peu, de tester de nouveaux trucs. Et ça peut être aussi, voilà, je ne ferai pas un épisode là-dessus spécialement, mais... enfin du moins c'est pas ce que j'ai décidé pour le moment, peut-être que je changerai d'avis, mais cette idée d'amener un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté, un peu d'exploration dans la sexualité. Et je pense que ces 3 clés qu'on vient de voir, donc l'épisode précédent, le 205 sur le désir en réaction ou le désir spontané, les autres épisodes sur les schémas érotiques, je crois que j'ai fait un épisode dédié à ça, encore une fois tu peux le trouver facilement, tu tapes schéma érotique podcast en amour, tu vas tomber dessus, ou blog graines de cœur, schéma érotique, tu vas tomber dessus sur Google ou le moteur de recherche de ton choix, ou tu demandes à une IA, tu demandes à ChatGPT ou je ne sais qui, c'est quoi les schémas érotiques, et tu vas trouver vraiment des explications. Il y a des fois il y en a 4, des fois il y en a 5, mais tu verras, c'est plus ou moins la même chose. Il y a quelqu'un qui a créé ça, il y a des gens qui l'ont réinventé à leur sauce, qui ont changé les noms, comme toujours. C'est un peu du marketing après, hein. Mais t'as la base qui est là, quoi. T'as la base qui est là. Et vraiment, voilà, et puis c'est ce passif actif, quoi, jouer un peu avec ça, jouer avec la passivité, peut-être aller plus loin dans le lâcher prise, dans le laisser guider, aller plus loin dans l'activité, d'être celui ou celle qui prend un peu le lead, quoi. Si t'es vraiment passif, bah est-ce que ce serait pas intéressant que tu prennes le rôle de l'actif parfois? Si t'es vraiment actif, que tu prennes le rôle du passif et que vous inversiez un peu, que vous jouiez avec ça, que vous explorez un peu avec ça, c'est quoi le lâcher prise? Parce que souvent, hein, on se rend pas compte ce que ça fait... La sensibilité du corps de l'autre, quoi. Moi, en tant qu'homme, hein, j'ai dû apprendre à ce que c'est que la sensibilité d'une vulve, la sensibilité des seins, et éventuellement d'autres, ça, c'est la sensibilité physique, souvent, mais il y a aussi la sensibilité émotionnelle de certaines parties du corps qu'on touche, des parties qui ont été blessées, des parties qu'on a honte, des parties qui ont été opérées. Il y a vraiment une sorte d'apprentissage, quoi, parce que... Après, peut-être que les femmes, vous le diriez autrement, mais moi, en tant qu'homme, il y a vraiment eu ce côté de des fois où, voilà, je regardais les choses au début de ma sexualité, un peu avec ce truc de mec, quoi, où bah, les seins, il faut les prendre, il faut les machiner. Et il y a vraiment, je pense, une sensibilité qui s'apprend. Et du coup, quelqu'un qui, on va dire, le stéréotype du mec actif, bah, peut-être ça peut être bien d'aller vers la passivité, vraiment bien d'explorer la passivité. Et le stéréotype de la nana passive, bah, d'aller vers l'activité, vers le rôle d'actif, et prendre un peu le lead, et se rendre compte de ce que c'est aussi que c'est pas facile, en fait, d'être celui qui est actif. Même si on a le désir, on a la libido qui nous porte, c'est pas facile toujours d'être actif. Et de vraiment inverser un peu les rôles. Donc ça peut être aussi une exploration, ça peut être aussi un jeu. Et là, encore une fois, on va peut-être déconditionner des choses, du conditionnement social, du conditionnement qu'on a eu de notre enfance, où voilà, madame, les femmes c'est passif, les hommes c'est actif, alors que peut-être il y a des gens qui sont dans ces rôles-là depuis tout le temps et qui vont se rendre compte que c'est l'autre rôle qui leur plaît le plus, ou ils ont besoin des deux, et ça va vraiment nourrir quelque chose de profond, ça peut vraiment faire du bien d'aller explorer ça, de se dire bah ouais, j'ai souvent été le plus actif, qu'est-ce qui se passe quand je suis passif, quoi? Qu'est-ce qui se passe quand je fais rien, quand je bouge pas, quand je me laisse faire, quand je... Quoi que ce... Enfin, bien sûr, je regarde toujours mes limites, on est toujours dans le consentement, etc. Mais voilà, j'autorise à l'autre de faire des choses avec moi, avec mon corps, avec mes parties génitales, etc. Et bien sûr, je regarde est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas, et si ça ne va pas, je mets mon nom, etc. Bien sûr, on n'a pas besoin de se faire violence ou de vivre des choses qui sont désagréables, mais permettre à l'autre, voilà, d'autoriser l'autre d'essayer des choses, de jouer avec nous, de, de profiter un peu de ça et lui permettre de profiter de nous, entre guillemets, d'une certaine manière, hein, de ce qu'ils ont envie de nous faire, de nous offrir comme expérience, etc. Et nous, bien sûr, de profiter de ce qu'on reçoit, quoi, en total lâcher prise, en total accueil. Est-ce que c'est possible? Pour beaucoup de gens, c'est compliqué. Hommes, femmes, pour beaucoup de gens, c'est compliqué, mais je pense que c'est un travail, une exploration, un jeu, voilà, dans la bienveillance, dans le consentement, dans l'amour, dans la tendresse, dans le désir, dans la folie que la sexualité peut amener. Voilà, jouer avec tout ça, schéma érotique, désir en réaction, désir spontané et passif ou actif. Voilà un peu ce que je voulais dire sur la sexualité. C'est un épisode qui sort avec un peu de retard, donc il va sortir dimanche. Il va faire pour les 2 semaines cet épisode, du coup il va faire pour la semaine passée qui, voilà, et la semaine prochaine. J'ai un été qui est un peu compliqué niveau perso. Enfin voilà, il y a des choses. J'ai ma compagne qui se fait opérer, ce genre de choses. C'est un peu, je sais pas trop, j'ai pas trop de visibilité sur exactement comment ça va se passer. Donc cet épisode il va faire pour les 15 jours, il va faire la semaine prochaine, et la semaine prochaine je vais essayer d'enregistrer un épisode qui fera pour une semaine ou deux. Ça me permettra d'avoir un tout petit peu d'avance avant de commencer l'été et de voir un peu comment ça se passe. Je sais pas trop si je pars en vacances encore, ce genre de choses là, donc à voir. Mais c'est possible que ce soit un peu décousu, les épisodes. J'ai un peu plus de travail, j'ai aussi un ou deux autres projets que j'ai lancés de mon côté, donc c'est pas toujours évident de tout gérer. Puis c'est l'été, c'est le printemps, le jardin pousse, il faut arracher les mauvaises herbes, il y a plein de trucs à faire dans la vie aussi. Mais voilà, mon plan c'est de continuer quand même les épisodes cet été, peut-être un peu moins fréquemment et selon un peu la vraie vie, on va dire. En tout cas, je te remercie fortement de ton écoute. Comme toujours, si tu veux soutenir ce que je fais, bah, tu peux t'abonner, tu peux partager le podcast, tu peux aussi tout simplement, on va poser les dates des ateliers de Tantra pour les gens qui sont en Haute-Savoie. Tout bientôt avec ma compagne, donc j'essaierai de mettre mon blog à jour rapidement. Tu peux aller sur grainesdecoeur.fr, t'as un onglet atelier Tantra en présentiel. Donc voilà, on est entre Annecy et Genève, côté France. Bon, voilà, si tu es dans le coin, si le Tantra, soit ça t'intéresse de découvrir, soit de pratiquer, on propose soit des soirées, soit des journées, genre 10h-18h pour les couples uniquement, ou les duos tantriques. Si jamais tu fais du Tantra régulièrement et que tu as quelqu'un avec qui tu pratiques et avec qui tu as envie de pratiquer dans un cadre, dans le cadre qu'on propose, voilà, n'hésite pas à nous contacter, c'est écrit, tout est sur le blog. Et voilà, il y aura les dates de la rentrée 2025. J'espère d'ici peu. En tout cas, je te dis à bientôt. Peut-être pas la semaine prochaine, peut-être à celle d'après. En tout cas, à bientôt. Merci de ton écoute. Ciao.